nous vivons une époque formidable.
Quoique.
Bienvenue dans les matinales de Bartas.
À partir de 8h30.
Quoique.
Le lundi, le mercredi.
Beaucoup de local.
Et puis, un peu d'autre chose.
Les matinales de Bartas.
En direct.
Sur le 107 FM.
J'ai retrouvé mes lunettes.
Allez, bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Bartas, bienvenue sur le 107, bienvenue dans la matinale. Nous sommes au joie le mercredi 3 mars, il est 8h30 et avec moi Corto, bonjour Corto. Voilà, je savais que j'allais le surprendre.
Bonjour.
Au programme de cette matinale, quelle belle matinale. Nous serons dans un instant avec Guillaume et Thibaut de La Nouvelle Dimension. Ils viennent nous parler de leur projet pour la suite du cinéma, en fait, une extension, une évolution de mon cinéma québécois. Ils se soumettent à vos votes sur la région citoyenne, ce sera dans un instant. Et en deuxième partie d'émission, nous serons avec Jean Jouzel, qui est climatologue et glaciologue. Il a été vice-président du GIEC entre 2002 et 2015. Nous le recevons dans le cadre du faux procès de Florac qui, s'il a lieu, ce sera au mois d'octobre, croisons les doigts, on l'espère, ce sera consacré au climat. L'interview a été réalisée hier en visio, évidemment. Il y aura de la musique comme d'hab, mais on commence, mon Corto, si tu veux bien, par l'édito.
On peut être en désaccord. Mais enfin, vu le ramassis de saloperies que je vous ai dégoté là...
Ce n'est que l'édito des Bartas.
J'aime bien quand tu veux bien, c'est cool. Allez, il y avait des manifestations contre, hein, mais après tout, y a de l'eau a coulé sous les ponts. La version finale de la réforme du chômage a été présentée. Un décret sera publié dans les semaines prochaines et la réforme commencera à s'appliquer le 1er juillet prochain. Alors, le mode de calcul du salaire journalier de référence, le SJR, sera la première mesure à entrer en vigueur. Elle fera baisser les allocations chômage. Celles-ci pourront être divisées par presque deux dans le pire des cas, quand même. Alors, selon la ministre du Travail, 800 000 demandeurs d'emploi seront concernés. Le cabinet d'Elisabeth Borne précise, je cite, que tous ne seront pas touchés d'un coup. Ce chiffre est une estimation dans le temps. Ah bah, quelle bonne nouvelle. Par contre, le bonus-malus censé sanctionner les employeurs qui abusent des contrats courts ne s'appliquera pas effectivement avant septembre 2022. Bah tiens, sur Twitter, Laurent Berger de la CFDT a d'ailleurs dénoncé une réforme injuste et déséquilibrée. Enfin, le voile a été levé sur les conditions d'ouverture des droits au chômage. Pour le moment, le seuil reste fixé à 4 mois de travail pour ouvrir et recharger des droits. Tous les demandeurs d'emploi sont concernés. Il n'y aura pas d'exception pour les jeunes, comme évoqué à l'automne dernier. Mais le seuil passera à 6 mois, là encore, quand la conjoncture sera meilleure. Alors, quand la conjoncture sera meilleure, ça veut juste dire qu'on nous enfume, vous ne nous voyez pas, nous sommes volontairement flous. En tout cas, ça finira derrière nous, derrière notre dos, tout ça, on écoute Matmata.
On m'a jeté de la camionnette sur le parvis devant chez nous. Et m'abandonnant aux pâquerettes, je me souviens plus de rien du tout. Ni de l'état de ma braguette, et de ce qu'elle ne cache plus du tout. Ni de sa soirée porte ouverte pour impatiente sans rendez-vous. Si je te retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui me raccompagne bras dessus, bras dessous. D'avoir trop aimé faire la fête, j'ai remis les comptes à zéro. Et puis il n'y a pas qu'en levrette que je fais des choses derrière ton dos. Je m'appelle pas non plus Don Diego. De Las Vegas jusqu'à Spézette, j'ai eu beau faire tous les Tripoli à ce moment où je regrette. Si se retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui me raccompagne bras dessus, bras dessous. Oh, je regrette, Dieu, je regrette d'avoir été si nul partout et puis d'avoir foutu en miettes mes six derniers points et puis nous. Et je regrette, Dieu, je regrette d'avoir été si nul partout et puis d'avoir foutu en miettes mes six derniers points et puis nous. Je te retrouve à l'aveuglette, c'est que je t'aime quand même beaucoup. Peut-être moins que cette piquette qui m'accompagne bras dessus, bras dessous.
Encore.
Peut-être moins que cette piquette, mais certainement plus que tout.
Ça a été créé il y a quelques mois maintenant, mon cinéma québécois en France, et on vous en parle depuis quelques jours pour la suite du cinéma. Est-ce une évolution ou un nouveau projet? En tout cas, ils ont besoin de vos votes sur la région citoyenne. On a déjà fait une émission avec Télédry et La Joie Errante. On est très heureux d'accueillir ici pour en parler Guillaume, directeur de La Nouvelle Dimension. Bonjour.
Bonjour.
Et tu es venu accompagné de Thibaut. Bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es service civique à La Nouvelle Dimension depuis
Depuis début octobre.
Ça se passe bien?
Ben ouais, super.
Tu m'étonnes, on est pas mal ici. Alors Guillaume, déjà, mon cinéma québécois a donc été créé il y a quelques mois. Tu étais venu nous en parler, nous sommes en mars, comment ça se passe?
Ça passe plutôt bien. Aujourd'hui, ça reste une proposition qui est entièrement gratuite, puisque c'est un site qui présente le cinéma québécois sous différentes formes. On peut s'inscrire, il y a un compte cinéphile qui est gratuit, donc on voit qu'il y a une évolution, notamment depuis le mois de janvier. On a, je pense, gagné 50% des inscrits depuis le début janvier. Je ne saurais pas dire à quoi c'est dû, mais en tout cas, comme on a lancé en mois de mai, on a vu une évolution, ça a avancé tranquillement. C'est un des indicateurs qui nous permet de voir que le site est visité. Évidemment, on a le nombre de visites, etc. On a lancé depuis le mois d'octobre un ciné-club en ligne, donc là une offre avec 5 films québécois inédits qu'on peut louer par le service Vimeo On Demand, qui a ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que c'est très facile de louer le film, ça coûte 3 euros. L'inconvénient pour nous, c'est qu'on a, c'est assez limité d'un point de vue retour, donc pour faire un bilan, c'est difficile, bon, on a quand même le nombre de ventes, etc. Et donc là, on va vers une nouvelle proposition, et notamment une proposition par abonnement, qui se fait beaucoup. Alors, sans citer Netflix, Amazon Prime et Disney+.
Voilà, t'as mis les trois, nous ça va très bien.
Voilà. L'idée, c'est pas d'offrir une plateforme qui soit similaire, puisque il y a aucun intérêt. C'est plutôt de proposer une offre de ciné-club. On est vraiment très attaché à cette idée de ciné-club qui est à l'origine de La Nouvelle Dimension. L'association qui gère cette plateforme, c'était déjà un ciné-club depuis 2008. Et on veut garder cette idée-là, c'est-à-dire proposer une programmation mensuelle et qui soit accompagnée toujours dans une logique d'éducation à l'image, dans une logique de développement, d'éditorialisation de contenu. Donc, c'est 5 films québécois inédits ou qu'on trouve plus, qu'on voit plus en France. Et plutôt que un, c'est 5 films. Et puis là, on va proposer une formule par abonnement, c'est-à-dire plutôt que de louer le film et de se dire je sais pas si ça va me plaire, je sais pas si je suis prêt à payer 3 euros pour voir un film, ça se trouve, il n'est pas sous-titré, etc. Là, ça va être 3 euros pour le mois, sur un engagement d'un an, donc 36 euros par an. Un abonnement qui est volontairement pas cher, parce que de toute façon, on ne veut pas concurrencer non plus les grosses plateformes, mais on veut que ça reste modeste, et puis que surtout que quelqu'un se dise, pour le prix de 3 euros, j'ai 5 films chaque mois, donc ça veut dire que si je regarde un film sur les 5 qui me plaît, ça ne me coûte pas trop cher. Donc là, on propose une offre par abonnement. Pour ça, il a fallu changer un peu de système. Sans rentrer dans les détails, c'est assez technique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plateformes qui se développent. Donc il y a beaucoup de services qui se sont développés depuis le confinement, depuis le mois de mars, par ce biais-là. Donc il a fallu trouver un petit peu notre place et trouver une formule qui soit assez adaptée et qui puisse à la fois proposer par abonnement, proposer par... on pourra toujours louer les films, mais surtout pouvoir proposer des contenus un petit peu autres, notamment des contenus streaming. Donc ça veut dire des séances en ligne uniques, c'est ce qu'on va proposer, on va en parler après pour le festival, mais aussi des échanges avec les réalisateurs, des tables rondes, des contenus pour les pros, pour les professionnels du cinéma, et de pouvoir du coup développer des interactions entre la France et le Québec, des projets de coopération, etc. Et cet outil-là qu'on essaye de développer va permettre de donner est-ce que c'est une excroissance de mon cinéma québécois en France, je ne sais pas. En tout cas, un contenu un peu plus live que ce qu'on a actuellement, qui est un contenu plutôt statique. Et c'est ce projet qu'on a proposé dans le cadre du budget participatif citoyen, qui est donc soumis au vote actuellement, là, jusqu'au 15 mars.
On va en reparler plus précisément, voilà. C'est ça, c'est une évolution. On va revenir très vite aux 36 euros par mois, ce prix abordable. C'est parce que, comme tu dis, c'est de l'éducation à l'image, donc ça va s'adresser aussi peut-être un peu plus aux jeunes. C'était ça le but, votre cible, c'est là que c'est ça se passe.
Actuellement, sur mon cinéma québécois en France, il y a plusieurs espaces pro. Il y a notamment un espace enseignant qui va être mis en place là, on l'espère ce mois-ci, sur cet espace enseignant, comme son nom l'indique, s'adresse aux enseignants. On trouve des fiches de films et on trouve des films et surtout des accompagnants, des outils pour accompagner un film, donc des outils pédagogiques. Ça peut être des ateliers, ça peut être des analyses, tout un tas de choses. Et cet espace là, il est on cible, par exemple, je donne l'exemple des enseignants, mais ça peut être d'autres personnes. Et donc l'idée, c'est de pouvoir toujours accompagné, et nous on se sert en fait du cinéma québécois comme support pour faire l'éducation à l'image. On est spécialisé là-dedans maintenant de fait, et puis avec d'expérience. Mais disons que là on travaille actuellement notamment avec Thibault, on anime des ateliers au collège, au lycée à Saint-Chély-d'Apché, au collège à Florac. C'est un atelier sur la francophonie. Découverte du cinéma et la francophonie, mais on utilise le cinéma québécois qui est francophone dans la majeure partie des cas, et du coup, comme toutes les thématiques sont traitées dans le cinéma québécois, on arrive à traiter tous les sujets que les élèves travaillent en classe, et donc le cinéma québécois est un support pour nous pour travailler l'éducation à l'image. L'idée, l'enjeu évidemment, c'est de faire découvrir le cinéma québécois, mais c'est aussi de faire découvrir le cinéma au sens large. Donc à première vue, la plateforme, elle peut s'adresser que aux gens qui s'intéressent à la culture québécoise, au cinéma, etc. Mais pas que. C'est aussi si les gens sont déjà allés sur la plateforme, ils se sont rendus compte que chaque fiche de film, il y a bientôt 400 fiches de films qui ont été référencées maintenant. Chaque fiche de film, sur chacune, on trouve des mots-clés, par exemple, qui sont les thématiques du film. Si on prend, le côté la ruralité, ou l'hiver, ou la nordicité, ou tout un tas de thèmes qui peuvent être soit propres au cinéma québécois, soit propres à certains types de films. Mm-hmm. Mais si on prend la ruralité, on va cliquer sur ruralité, on va avoir une liste de films sur la ruralité. Si on veut faire un travail puis d'expérience avec notre ruralité à nous, on peut se servir de ces films-là pour essayer de voir comment les films abordent ces sujets-là. Donc, c'est du cinéma québécois, mais c'est du cinéma avant tout.
Donc, on a bien compris que ça se diversifie, ça évolue, d'où le fait que vous soyez inscrit à la région citoyenne, et que vous soumettez au vote des citoyens occitans. La nécessité ici, elle est financière, pourquoi ? Parce que ça demande des nouvelles choses ?
C'est ça, depuis le début de ce projet, en septembre 2018, on fait tout maison. On est une équipe de deux, et puis souvent, heureusement, accompagné d'un service civique ou de temps en temps de stagiaires aussi. Donc, on va dire une équipe de trois. Évidemment, ça demande des financements. On trouve des financements publics, notamment pour le développement de projets. On trouve... c'est pas un projet qui génère des ressources, donc on gagne pas d'argent avec ça, Mais si on veut qu'ils s'inscrivent dans la durée, il faut que ces projets et puis cette plateforme puissent fonctionner techniquement. On ne peut pas tout faire nous-mêmes, il faut aussi de temps en temps déléguer. C'est comme à la radio, si tu veux installer du matériel, tu n'es peut-être pas électricien non plus.
Voilà, exactement.
Et donc, c'est cette délégation qui demande un peu d'investissement. Et donc là, si on veut faire une espèce de nouvelle version de la plateforme qui intègre tous nos services, il faut qu'on puisse prendre les services d'une agence web, tout simplement, qui va assurer à la fois le développement, mais aussi le suivi, la maintenance. Mmh. Et ce financement-là, on le cherche. Donc ce financement, cette proposition de budget participatif, elle va servir à financer essentiellement ça. Et comme je l'ai spécifié, on l'a spécifié dans les réseaux sociaux, c'est aussi le développement d'un emploi. On essaye de développer un emploi supplémentaire pour la plateforme. C'est en bonne voie quand même sur l'animation. C'est une entreprise qui est implantée en Lozère. C'est le développement de projets qui va bien au-delà de juste valoriser le cinéma québécois. C'est aussi un développement de projet local.
Qu'on se rende compte à peu près, vous avez estimé à combien le coût ?
Le coût qui est demandé dans le cadre de ce projet-là, c'est 20 000 euros. Ça sert au développement de l'outil comme on l'entend. C'est-à-dire aujourd'hui, il fonctionne. Mais si on veut développer un outil qui soit plus efficace pour nous d'un point de vue, je parle en termes techniques, mais d'un point de vue back-office, de pouvoir gérer tous nos outils dans la même maison, ça va demander bien 15-20 000 euros pour ça. Le projet, il n'est pas là pour financer l'animation de la plateforme. Ça, on l'autofinance déjà. Par soit le développement de projet, soit par de l'autofinancement. Les adhérents à la nouvelle dimension l'adhésion fait partie aussi de ce financement-là. Donc vous pouvez aussi adhérer à la nouvelle dimension pour participer.
Il y a un terme qui m'a fait sourire dans la présentation de votre dossier, c'est la découvrabilité. Ça sonne québécois un peu. Qu'est-ce que la découvrabilité ?
Alors la découvrabilité, elle a une définition propre au Québec, elle a une définition qui est en train d'arriver en France. En fait, c'est un terme qui effectivement vient du Québec, mais qui est maintenant tout à fait officiel, puisqu'il y a eu une mission franco-québécoise sur la découvrabilité des contenus culturels en ligne. Cette mission, elle a été missionnée par le gouvernement dès l'arrivée de Macron. Elle arrive à son terme. On devait au festival l'an dernier recevoir la personne chargée de cette mission qui a été nommée par l'État, qui devait venir à Florac pour en parler. La découvrabilité, en fait, c'est le potentiel d'un contenu à être découvert. Donc là, on parle de découvrabilité des contenus culturels en ligne. Ça veut dire que tout le monde a entendu parler de référencement, par exemple. Si je tape le titre d'un film sur Google, si je tape, Antigone de Sophie d'Erasme, qui est sortie début septembre, il y a des sites internet qui vont être référencés. Mmh. L'intérêt, c'est que le nôtre, il soit bien référencé. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que c'est comment, une fois que le film arrive et que quelqu'un tape Antigone qui tombe sur le titre, c'est comment il peut le voir, le film. Donc si certains ont peut-être vu, aujourd'hui, si vous tapez X-Men sur Google, Google va vous dire si vous pouvez aller le voir directement sur Netflix ou si vous pouvez le voir sur Disney+, ou je ne sais pas quoi. Ça fait partie de la découvrabilité. C'est-à-dire que ce n'est pas juste comment... le film se positionne bien dans les moteurs de recherche. C'est aussi, comment un contenu se positionne bien, c'est aussi comment la personne le trouve. Et la dernière étape, c'est comment le mettre devant les yeux d'une personne qui ne le cherche pas. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, si quelqu'un cherche Antigone de Jean Anouilh, peut-être qu'on va lui mettre sous les yeux la version du film de Sophie d'Erasme. Mm-hmm. Toute cette découvrabilité-là, elle se travaille à la fois d'un point de vue technique avec les moteurs de recherche, mais les réseaux sociaux aussi, mais elles se travaillent aussi à la qualité du contenu qu'on va proposer. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, c'est ça qu'on essaie de proposer. Ce n'est pas juste un titre, un réalisateur, un résumé. C'est le nom du coiffeur, le nom de la maquilleuse, il est mis, le nom de l'ayant droit, etc. Et donc tout ça participe à la qualité du contenu qu'on va proposer. Donc la découvrabilité, elle ne se résume pas forcément en une phrase. C'est un ensemble de choses qui va faire qu'un contenu va être facilement découvert par une personne lambda, par toi par exemple.
Et j'ai bien compris que ça prenait aussi beaucoup, beaucoup de temps à faire, quoi.
Ça prend beaucoup de temps, c'est pour ça que ça demande un petit peu à être passionné. Mais effectivement, nous, les retours qu'on a d'un point de vue technique, c'est que la plateforme est vraiment bien fournie. Après, ça veut dire qu'une base de données, ça s'entretient. Et si la personne a fait un nouveau film, faut que la fiche soit mise à jour. Et c'est ça aussi qui fait partie de cette découvrabilité-là. C'est qu'aujourd'hui, si tu tombes sur un contenu, si le contenu date de 2003, tu vas avoir beaucoup de mal à aller cliquer sur la page et aller te dire les informations que je lis, elles sont toujours d'actualité. Tu vois ?
Ouais, je vois. En tout cas, c'est chouette parce que vous vous êtes pas trompé quand vous avez commencé à mettre en place la plateforme Mon Cinéma Québécois, parce que l'attrait du cinéma québécois en France est quand même ultra présent. C'est chouette.
Oui, ouais, ouais. Et puis là, on va essayer de démarrer un partenariat avec la Fédération France-Québec. C'est 53 associations régionales en France. 1500, 2000 membres, j'en sais rien. Donc l'idée, c'est de faire un partenariat aussi avec eux pour que des gens qui ne s'intéressent pas forcément au cinéma québécois, mais à la culture québécoise au sens large, il y en a beaucoup plus que ça, que des gens qui s'intéressent au cinéma québécois, puissent eux-mêmes découvrir aussi le cinéma. C'est-à-dire que c'est bien joli de s'intéresser à aller voyager au Québec, goûter du sirop d'érable ou être fan de je ne sais pas quel monument ou je ne sais pas quoi. Mais c'est aussi bien de s'intéresser aussi à la culture actuelle et passée, etc.
Bon, il y a une autre bonne nouvelle à aborder quand même, hein, même si on en reparlera peut-être plus profondément à l'approche du festival 48 images secondes qui revient sous deux formes et à deux moments différents cette année, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Et la première, ce sera au mois d'avril.
C'est ça.
Comme les dates quasi normales du festival.
On a gardé les dates initiales, on devait rien faire au départ, et puis finalement, on a eu une opportunité de projet. Une opportunité de financement de projet qui nous a convaincus qu'il ne fallait pas qu'on lâche cette période-là, parce que déjà l'an dernier, on n'a pas fait grand-chose, on a fait quand même une compétition de court-métrage en ligne. La partie physique, on la prévoit début octobre.
En croisant les doigts.
Voilà, on dit bien, on la prévoit. Et puis, plutôt que de faire 5 jours en octobre, on a décidé de couper la poire en deux, de faire 3 jours en octobre. Comme ça, on ne s'avance pas trop. Et puis, les 2 jours, on les garde en avril pour un événement en ligne. Ça nous permet plusieurs choses. Ça nous permet de maintenir le lien avec les distributeurs, avec les ayants droit, pour toujours pouvoir mettre en avant des films. Comme c'est l'étiquette du festival et non ciné-club, on est plutôt sur des avant-premières ou des films qui sont complètement inédits en France. Et puis, ça nous permet de garder le lien avec notre public du festival, qui peut être local, qui n'est pas forcément intéressé en premier lieu par un événement en ligne, mais qui va peut-être s'y mettre. Mais qui, surtout, d'aller chercher un public national. Donc là, la communication qu'on va faire, on va avoir des partenariats de communication, pas mal sur les réseaux sociaux notamment, elle va être nationale, du coup, et l'enjeu n'est pas du tout le même non plus. Je ne dis pas qu'on va avoir des milliers de connexions, mais en tout cas, ça va permettre de parler du festival et pourquoi pas d'inciter les gens à venir à Florac début octobre, puisque forcément on en parlera. Donc ce festival, voilà, on le garde sur 2 jours, 5 projections.
Puis c'est aussi dans l'idée de la suite du cinéma que vous créez, parce que c'est vous voulez aussi autant que possible en complémentaire des exploitations en salle.
C'est ça. Là, par exemple, on va participer dans le cadre de la semaine de la francophonie du 13 au 21 mars à un événement qui s'appelle les Nouvelles Voix du cinéma québécois, qui est organisé par Les Alchimistes, un distributeur cinéma qui a distribué Antigone, dont je parlais tout à l'heure, et qui a imaginé un petit événement unique pour valoriser le travail des distributeurs. Donc là, les 9 films qui vont avoir lieu qui vont être en séance en ligne pendant cette semaine-là, ce sont des films qui sont déjà sortis en France. Il y a des distributeurs québécois, des distributeurs français, pardon, qui ont les droits sur des films. C'est une manière de valoriser ce travail-là. Nous, quand on va, les 5 films qu'on va proposer en mars rentrent dans la même démarche, c'est-à-dire qu'il y a à minima 3 films sur les 5 qui vont être des films dont des distributeurs français ont déjà les droits. Donc c'est une manière aussi de montrer le travail. Les films ne peuvent pas sortir en salle. Certains, on va volontairement pas les programmer parce que le distributeur veut le sortir en salle, puis nous aussi on préférerait. Mais pour d'autres films, ça va être plus difficile. Le calendrier des sorties salles est pour l'instant complètement incertain. Donc, malheureusement, effectivement, il y a des films qui sortiront jamais en salle. Mais heureusement, il y a des initiatives comme les nôtres qui vont quand même leur donner un coup de projecteur.
Thibaut, un petit mot quand même. Toi, est-ce que tu avais de l'attrait comme ça pour le cinéma québécois ou alors est-ce que tu le découvres depuis que tu es en service civique à la Nouvelle Dimension?
Moi, ouais, c'est plutôt une découverte. Je suis venu ici juste en voyant que c'était quand même un gros travail que proposait la Nouvelle Dimension, mais j'avais assez peu de connaissances sur le cinéma québécois. Et je suis très content d'avoir l'occasion de découvrir une riche filmographie, plein de super réalisateurs ici.
Et qu'est-ce que tu penses, toi, un petit avis quand même sur la situation du cinéma aujourd'hui, les salles de cinéma fermées? T'as un avis là-dessus?
Oui, un avis, bien sûr. je trouve ça triste, évidemment, que les salles de cinéma soient inaccessibles. Tous ces films en attente de diffusion qui ne le sont pas, c'est quelque chose d'assez déplorable, que je regrette personnellement.
En tout cas, la suite du cinéma, elle s'inscrit dans ce projet. Si vous voulez soutenir, auditeur, auditrice, le projet porté par La Nouvelle Dimension, rendez-vous sur Je Participe, la région citoyenne, tapez La Nouvelle Dimension, vous avez droit à 3 votes, ce qui m'a beaucoup arrangé, je voulais pas faire de jaloux. Voilà, en tout cas, je mets évidemment le lien sur notre site dans un instant, je mets évidemment le lien de mon cinéma québécois aussi. Merci beaucoup Guillaume.
Mais merci.
Et merci Thibaut.
Merci.
Bonne chance pour la suite, on peut voter jusqu'au 15 mars, n'hésitez pas, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
On se retrouve dans un instant avec Jean Jouzel, ce sera par Zoom. On écoute d'abord Astrid Gilberto, Agua de Beber.
Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Beba tunda, bate lá da badaba, beba tunda, bate lá da badaba, beba tunda.
Dans le cadre des faux procès de Florac, qui, si les situations le permet, aura lieu en octobre 2021 et qui est consacré au climat, nous sommes ce matin avec Jean Jouzel. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
J'ai vraiment l'espoir que cet événement devienne réalité. Oui.
Êtes climatologue et glaciologue, ancien vice-président du groupe scientifique du GIEC jusqu'en 2015. Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Avec vous, on va revenir sur la situation actuelle, sur la loi climat, les accords de Paris ou encore la Convention citoyenne pour le climat. Mais déjà, pour ceux qui se le demanderaient, qui ne connaîtraient pas, c'est quoi le GIEC ?
Ben, le GIEC, c'est une organisation mise en place. D'ailleurs, c'est une décision politique. Nous sommes dans les années 80 et ce sont les premières modélisations qui montrent que l'augmentation de l'effet de serre risque d'avoir, lié aux activités humaines, risque d'avoir un effet très important si on n'y fait pas attention sur nos activités, sur notre climat. Et donc, la décision est prise de mettre en place un groupe de travail qui sera le GIEC en 1988 avec comme mission, disons, de faire un diagnostic sur tout ce qui touche à l'évolution de notre climat, pas simplement les causes du réchauffement climatique, mais aussi ses conséquences, les mesures à mettre en œuvre. Donc c'est bien une évaluation, ce n'est pas du tout des recommandations. L'objectif du GIEC n'est pas de recommander aux décideurs politiques ce qu'ils doivent faire, mais il est, je dirais, de leur donner les éléments, les arguments pour qu'ils puissent mettre en place une politique en matière climatique.
Alors, on va en parler. Hein. Néanmoins, vous avez été président jusqu'en 2015. Est-ce que vous suivez encore les travaux du GIEC ?
Oui, je suis encore les travaux du GIEC. En fait, le sixième rapport. Donc, depuis, j'ai été donc vice-président du groupe scientifique jusqu'en 2015, entre 2002 et 2015. J'ai aussi participé au GIEC, en fait, depuis 1994. J'y ai été impliqué une bonne vingtaine d'années. Depuis 2015, il y a eu des rapports spéciaux qui ont été publiés. L'un sur le climat à 1,5 degré, ce qui est très important. Il y a eu cette conclusion importante que si on voulait limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré par rapport aux conditions pré-industrielles, il fallait vraiment avoir, disons, viser neutralité carbone en 2050. Un autre rapport sur l'océan, la cryosphère. Un troisième, ce sont des rapports spéciaux dans ce cas-là, sur l'utilisation des terres. Et puis le sixième rapport du GIEC va être publié très rapidement maintenant. Le premier volet, les causes du réchauffement climatique, va être publié au mois de juillet prochain. Et ensuite, sur les 12 prochains mois, pratiquement l'ensemble du sixième rapport du GIEC va être publié.
Est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par les politiques?
Oui, est-ce que vous avez l'impression? Oui. Alors, oui, c'est assez presque caricatural. Quand on regarde, donc le rôle du GIEC, c'est effectivement de fournir, un des rôles du GIEC, c'est de fournir aux décideurs politiques les éléments pour qu'ils puissent prendre leurs décisions. En fait, ça ne marche pas si mal, puisque ces décideurs politiques, on les retrouve au sein de la Convention climat. Donc le GIEC se met en place en 1988, le premier rapport du GIEC est en 1990, et dès en 1992, c'est le sommet de la Terre de Rio, où se retrouvent les décideurs politiques, ils mettent en place la Convention climat, aussi la Convention pour la biodiversité, et pour celle pour la désertification, et ces conventions vont effectivement vivre leur vie, mais l'idée, c'est effectivement que les décideurs politiques qui se retrouvent au sein de la Convention climat, chaque année il y a ces fameuses conférences des partis, tiennent compte effectivement des rapports du GIEC pour prendre leurs décisions. Et en fait ça marche bien en ce sens que quand on regarde les textes, aussi bien le texte de la Convention climat lui-même qui demande à stabiliser le climat, mais aussi les textes par exemple de l'accord de Paris, dans les textes, ça s'appuie effectivement sur le diagnostic des scientifiques. Le problème, je crois que l'accord de Paris, j'adhère aux objectifs de l'accord de Paris, ces objectifs de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés, si possible 1,5 degré. Le problème, c'est que autant j'adhère au texte qui s'appuie sur, le diagnostic de notre communauté scientifique, la réalité est que les objectifs qui sont affichés, aussi bien au niveau mondial, au niveau européen, au niveau français, ne sont jamais respectés. C'est ça la réalité. Donc, on ne peut pas vraiment dire que les scientifiques, on ne les écoute pas. En fait, il y a beaucoup de textes, y compris si on prend par exemple le texte de la loi en France, celle qui est en cours actuellement, la loi climat-énergie, on a bien affiché dans cette loi climat-énergie la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est parfait. La difficulté, c'est que nous, et c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour l'Europe, peut-être, et aussi au niveau planétaire, bien sûr, on a beaucoup de retard par rapport aux objectifs affichés. par exemple au niveau planétaire, eh bien, il y a effectivement des engagements dans l'accord de Paris, mais il faudrait des engagements de réduction, mais il faudrait les multiplier par 3 pour avoir des chances de rester sur une trajectoire qui n'aille pas dans le long terme au-delà de 2 degrés, par 5 pour un degré 5. Donc on voit bien cette... Alors on ne peut pas dire non plus que les scientifiques n'aient pas été écoutés, mais malheureusement, ils sont écoutés mais pas vraiment entendus dans la réalité. C'est ça la difficulté.
Et justement, est-ce que là, on a vu qu'il n'y a pas très longtemps, c'était historique mais symbolique, le tribunal administratif a reconnu début février pour la première fois l'État français responsable d'inaction climatique. Quel est votre sentiment là-dessus? Est-ce que vous estimez que les États n'en font pas assez?
Alors, d'abord, c'est justifié. Disons que l'État français reconnaît lui-même, il suffit d'aller sur le site du ministère, l'État français reconnaît qu'il a du retard par rapport à sa propre feuille de route, par rapport à la loi. Il est reconnu dans la stratégie nationale bas carbone qu'il faudrait multiplier au moins par 3 le rythme de réduction des gaz à effet de serre en France pour que nous respections les objectifs, peut-être plus probablement. Donc l'État lui-même reconnaît qu'il est en faute, qu'il a du retard. Alors ensuite, que effectivement, cette judiciarisation du problème climatique, c'est-à-dire que dans ce cas-là, des organisations aillent, disons, titiller l'État par rapport à son manque d'engagement par rapport au réchauffement climatique est tout à fait justifié. D'ailleurs, le Conseil d'État a, disons, effectivement donné son quitus à cette action. Donc, c'est justifié. Après, nous verrons ce qui se passe dans la réalité. Il n'y aura probablement pas beaucoup de conséquences, mais c'est tout à fait justifié que les individus, que les organisations puissent, dire à l'État, ça ne va pas. Mais dans la réalité, quand même, il ne faut pas non plus toujours simplement accuser l'État. Quand on regarde, l'État a un rôle à jouer pour moi. L'État a un rôle à jouer qui est important, qui est celui d'être présent sur la scène internationale. Je crois franchement que c'est le cas pour la France. Mais aussi celui d'être capable de décliner les objectifs qu'il affiche. La France affiche un objectif extrêmement ambitieux, neutralité carbone à horizon 2050, mais il faut les décliner dans les lois, dans les décrets. Et ça, on le voit bien à travers cette loi climat et résilience, eh bien, on est loin du compte de nouveau. Mais dans la réalité maintenant, il ne faut pas non plus mettre tout sur le dos de l'État. La réalité de la lutte contre le réchauffement climatique, eh bien, c'est largement, on sait très bien que c'est, disons, notre façon de nous déplacer, la mobilité, le bâtiment, l'urbanisme, l'agriculture, l'alimentation représentent plus de 60% des émissions. Et quand on regarde effectivement, eh bien, bâtiment, urbanisme, artificialisation des sols, c'est quand même beaucoup du rôle des collectivités à tous les niveaux, des villes, des métropoles, des territoires également, mais aussi des régions. Donc, on ne peut pas mettre tout le poids de la faute ou du manque d'ambition sur l'État. Il faut aussi regarder la réalité du fonctionnement. Et puis, quand même, nous sommes, quand on parle de mobilité, de se nourrir, se loger, se déplacer, c'était vraiment les trois des thèmes très forts de la Convention citoyenne, c'est plus de 60% des émissions. On ne peut pas non plus, chacun d'entre nous, se dédouaner de notre contribution. Nous sommes, le point de départ, c'est que nous avons chacun d'entre nous avons aussi une part dans ces émissions. Donc, je crois, il faut que tout le monde s'engage. En gros, pour réussir, il faut que l'État s'engage, il faut que les collectivités s'engagent, il faut que les entreprises s'engagent. Nous sommes en train d'en discuter aujourd'hui, c'est bien ce qu'il faut faire. Donc, il ne faut pas, je ne crois pas, disons, c'est un mouvement complet de la société, de l'ensemble de la société dans tous ses éléments, de l'individu jusqu'à l'État, qui nous permettra vraiment d'être à la hauteur de l'ambition. Donc, je ne veux pas du tout détoiner l'État, en particulier dans ce contexte de manque d'ambition de la loi climat-résilience, mais on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'État.
Mais alors justement, dans ce que vous dites, il y a un an, le président Macron a créé la Convention citoyenne pour le climat. Sur papier, l'idée était bonne. Quel est votre avis, vous, sur cette fameuse convention et sur cette relation qui a d'ailleurs été un peu houleuse entre justement l'exécutif et les citoyens?
Donc d'abord, ça fait quand même un an et demi. Moi, je suis membre J'ai été membre du comité de gouvernance, en fait, il existe toujours. Bon, il vient, disons, la Convention citoyenne est maintenant terminée avec cette session 8. En fait, les premières réunions que nous avons eues du comité de gouvernance, de sa mise en place, c'était à l'été 2019. Hein, ça fait pratiquement un an et demi, largement un an et demi. Hein, donc, ça, effectivement, l'objectif initial, c'était que les citoyens rendent leur copie au printemps 2020. Et non pas presque au printemps 2021, enfin, nous sommes encore disons, à la fin de l'hiver, mais cette année de retard est imputable à la situation. On a eu d'abord du retard lié par exemple aux grèves du mois de décembre, il y a eu les sessions de 2019, il y a eu les sessions de supprimer, et ensuite depuis largement, alors pas complètement, nous sommes revus une fois, mais on a eu beaucoup de retard lié à cette... disons, au contexte pandémique, c'est clair. Donc, avec beaucoup de réunions en visio aussi avec les citoyens. Alors, mon sentiment, donc je l'ai vécu de l'intérieur. D'abord, c'est une expérience passionnante, hein, donc membre du comité de gouvernance. Alors, le rôle du comité de gouvernance, c'est que tout se passe bien. Hein. Ce n'est pas, disons, il y a la présidence de Thierry Pech et de Laurence Dubiana. Je crois que ça s'est quand même bien passé. Mon sentiment, c'est vraiment que les propositions des citoyens étaient tout à fait pertinentes. Hein, quand on regarde, et je pense même à celle qui a été écartée les trois qui ont été écartées, disons les trois jokers du président de la République. Alors, je rappelle qu'il y a eu 150 propositions, une qui ont été toutes votées par les citoyens, sauf une qui était la réduction du temps de travail. Et ensuite, il y en a trois qui ont été mises de côté par Emmanuel Macron, dont celle sur la limitation de la vitesse sur autoroute à 110 km/h, à laquelle je suis favorable, parce que c'est quand même, d'abord, c'est loin d'être négligeable en termes de réduction de gaz à effet de serre, et ensuite, c'est vrai que c'est peut-être un symbole aussi d'une nouvelle société, disons peut-être un peu plus pacifiée que j'appelle de mes voeux. Mais bon, cela, c'est maintenant sur les 146 restantes, elles sont vraiment extrêmement pertinentes, et je crois, oui, on peut regretter qu'elle ne soit pas mise en œuvre complètement, loin de là. Vous avez vu la note qui a été donnée, disons, par les citoyens à cette loi. Elle est largement en dessous de la moyenne. C'est vrai qu'il y a eu une certaine désillusion dans le fait que le président Emmanuel Macron avait vraiment dit que ce processus de proposition des citoyens serait sans filtre. Cette notion de sans filtre avait été largement considérée par les citoyens comme une transmission. Alors, les citoyens n'ont jamais pensé qu'ils feraient la loi, pas du tout. Hein, mais les citoyens ont pensé à juste titre que les propositions qu'ils feraient seraient transmises au Parlement, disons, sans filtre, sans modification. Ce n'est pas ce qui s'est passé, puisque chaque ministère s'est vraiment acharné à édulcorer les articles de loi relevant de leur... justement de leur domaine. C'est très clair, c'est ce qui s'est passé. Et on voit bien que l'ambition n'est pas au rendez-vous par rapport à, en tout cas, à ce qu'ont proposé les citoyens. Alors, moi, je me suis intéressé à cette loi plutôt au titre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. Donc, nous avons la section de l'environnement dans laquelle je suis membre. Nous avons... donner un avis sur cette loi, et nous avons dit clairement qu'elle n'était pas assez ambitieuse, cette loi, qu'il y avait beaucoup de décalage des mesures. Donc, et nous ne sommes pas les seuls. Le Conseil national de la transition écologique a fait de même, le Haut Conseil pour le climat. Toutes ces instances ont, comme les citoyens l'ont fait d'ailleurs, ont noté le manque d'ambition de la loi par rapport à l'objectif affiché, qui est affiché de moins 40% à horizon 2030, de diminution par rapport à 90, et dont on sait, comme l'Europe s'est engagée pour moins 55%, qu'il devrait être relevé au niveau français, cet objectif. Donc, de façon assez claire, il me semble que les mesures qui sont actuellement dans la loi, alors il va y avoir toutes les discussions des événements, ne sont pas de nature à mettre la France sur une trajectoire compatible avec ses objectifs.
Si on revient aux accords de Paris, les États-Unis reviennent dans ces accords. Pour vous, je suppose que c'est une excellente nouvelle.
Oui, c'est une excellente nouvelle, puisque en fait, la Convention climat, ses objectifs, Si on regarde un peu sans être trop long l'histoire, une des causes, donc la première réunion de la Convention climat, c'est en 1995, dès la troisième réunion, la troisième COP à Kyoto, il y a un accord qui est assez intéressant, qui invite les pays développés à diminuer leurs émissions. Mais en fait, une des causes de l'échec de Kyoto, c'est quand même l'élection de George Bush aux États-Unis pendant 8 ans, puisque George Bush décide que les États-Unis ne seront pas actifs dans le protocole de Kyoto. Il y a évidemment aussi l'émergence de la Chine. Disons que dans les années 2000, les émissions de la Chine ont pratiquement pas loin de triplé. La Chine est passée devant les États-Unis en termes d'émissions dans les années 2000. Mais c'est clair que les historiens, quand ils regarderont les deux premières des années de ce siècle, observeront de façon très claire le rôle extrêmement négatif des États-Unis pendant 12 ans, les 8 ans de George Bush et les 4 ans de Donald Trump. Ils se sont mis, en dehors de l'action internationale en termes de lutte contre le réchauffement climatique. Et cela, c'est extrêmement dommageable. Alors, pas simplement parce que les États-Unis, ça représente une part non négligeable des émissions, mais aussi parce qu'il y a un effet d'entraînement sur les autres pays. On le voit bien. On voit bien que des pays comme le Brésil, comme l'Australie, comme la Russie, d'autres, se sont mis un peu dans le sillage de Donald Trump, c'est-à-dire avec cette idée que bon, l'accord de Paris c'était bien, le Brésil ne l'a pas quitté, mais dans la réalité, officiellement, mais officieusement, il s'en désintéresse complètement. Donc, cette dynamique a été extrêmement négative par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique, et donc effectivement, le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, ils ont tout à fait récent, je crois que c'était le 10 février, est tout à fait est une excellente nouvelle. D'autant plus qu'elle est doublée d'une annonce, qui n'est loin d'être négligeable, d'une annonce des États-Unis de neutralité carbone à horizon 2050. Donc, en fait, actuellement, nous avons près de 80 pays qui ont affiché neutralité carbone à horizon 2050, dont les États-Unis, l'Europe et les pays européens, et puis d'autres pays, le Japon, la Corée, le Canada. Il y a encore beaucoup de pays qui ne l'ont pas fait, mais c'est quand même un pas en avant. La Chine, elle a affiché neutralité carbone à horizon 2060. Donc c'est assez intéressant, je redis, parce que par rapport à il n'y a que 2 ans que cette neutralité carbone, cette nécessité de neutralité carbone à horizon 2050 a été affichée par le GIEC, comme des conditions, ce n'est pas une recommandation, mais le constat du GIEC, c'est que si on veut respecter un objectif ambitieux, il faut neutralité carbone en 2050. C'est assez intéressant de voir que cette neutralité carbone, 2 ans après, trois ans maintenant, ce rapport était en 2018, 3 ans après ce rapport, devient réalité pour, grosso modo, plus de la moitié de la planète. Donc ça, c'est intéressant. La difficulté, le problème, c'est que je ne vois pas comment on pourra atteindre neutralité carbone en 2050, voire 2060 pour la Chine, s'il n'y a pas des mesures prises immédiatement. C'est ça le problème. On ne peut pas espérer neutralité carbone en 2050 si en 2030, on n'a pas fait un pas très important vers la neutralité carbone. Je suis d'ailleurs en accord avec l'objectif européen de diminuer moins 55%, mais je doute que nous y arrivions avec les mesures actuellement mises en œuvre. C'est ça la difficulté. Le diagnostic est bon, les textes sont ambitieux, la réalité en est loin.
Le problème aussi, c'est que les accords de Paris, c'est une déclaration d'intention. Il n'y a pas de mesures coercitives, pas d'amende, pas de mesures de rétorsion. Enfin, il n'y a rien. Ça existait, je pense, pourtant dans les accords de Kyoto. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller plus loin et puis voir peut-être des sanctions ?
Oui, il faudrait, bien sûr, mais c'est là toute la difficulté. Tant qu'on n'aura pas, de façon très claire, tant qu'on n'aura pas en face de l'OMC, qui a quand même un pouvoir, de sanctions, l'Organisation mondiale du commerce, et c'est l'épine dorsale actuellement du système capitaliste, avec comme credo une maximisation des échanges. Tant qu'on n'aura pas en face une organisation du même type, de la même force, c'est-à-dire avec des devoirs, mais aussi des possibilités de sanctions, on n'y arrivera pas. C'est clair qu'actuellement, notre monde, c'est tout le système politique, le capitalisme, en tout cas celui ultralibéral, qui ne prend pas en compte ces problèmes, qui ne prend pas en compte les externalités négatives liées à ces problèmes-là, au, disons, au développement économique, alors qu'il le faudrait, eh bien, je ne vois pas comment on peut arriver à faire respecter ces objectifs, sauf sous la pression des jeunes. Là, il y a quand même un problème. Disons, c'est une réalité, ce réchauffement climatique, et on ne peut pas, il est inéluctable, mais si on ne le limite pas, eh bien, je dirais qu'il y aura de la casse. Hein. Disons, un monde à 3, 4, 5 degrés, eh bien, c'est un monde qui deviendra rapidement inacceptable et qui aurait des conséquences très difficiles dans beaucoup de régions assez vulnérables. Mais disons, il y a quand même l'espoir qu'il y ait vraiment une prise de conscience au niveau mondial de la réalité de ce réchauffement. Je redis que le réchauffement que nous connaissons aujourd'hui, c'est celui que nous avions anticipé il y a 30 ans, et donc il faut prendre au sérieux celui que nous anticipons dans 30 ans et au-delà. Et donc, disons, les jeunes de tous les pays prennent cela au sérieux. Et d'ailleurs, si on regarde le cas de la Chine, par exemple, eh bien, je pense qu'il y a une double raison au fait que la Chine ait déjà affiché une neutralité carbone, même si elle l'a fait pour 2060, c'est que du point de vue économique, c'est cela qui sera porteur. Hein, disons, cette neutralité carbone, il y a beaucoup de développement économique en termes d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, de stockage d'énergie qui sont à la clé. Mais il y a aussi le fait que eh bien, les générations de jeunes Chinois sont tout à fait conscients de ce problème climatique. Donc voilà, il y a aussi, disons, d'une certaine façon, la montée en puissance aussi de l'intérêt écologique en France, par exemple, en tout cas au municipal, témoigne d'une prise de conscience, mais qui est loin d'être globale, parce que nous sommes, et je ne m'exclus pas forcément du « nous », nous avons toujours chacun entre nous un égoïsme, un individualisme par rapport aux actions. Donc voilà, donc il faut. Mais il y a une prise de conscience qui est quand même de bon augure, mais qui est loin d'être à la hauteur. Ce n'est plus une prise de conscience qu'il faut maintenant, c'est une action immédiate, volontariste et forte. C'est ce que nous disons dans notre avis du CESE, par exemple, du Conseil économique, social et environnemental.
Merci beaucoup, Jean Jouzel, d'avoir pris le temps de nous répondre.
Merci beaucoup. Merci à Radio Bartas. Et puis, je voulais simplement souhaiter que l'événement à Florac puisse avoir lieu à l'automne. Voilà, je vous souhaite beaucoup de. Et je l'espère franchement pour vous tous et pour nous tous d'ailleurs, parce que, bien sûr. Merci beaucoup de cette interview.
Merci à vous. Échange. Et à bientôt.
Bonne journée.
Au revoir. Et on embrasse toute l'équipe du faux procès, des faux procès de Florac. Petite info pour finir, sachez que notre assemblée générale aura lieu le 20 mars. On vous en reparlera, bien sûr. C'est la fin de cette matinale, on se retrouve lundi. Merci Corto. Merci à toutes et tous de nous suivre. Il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien, on se quitte avec un grand classique. Louis Armstrong, What a Wonderful World. À lundi, ciao.
I see trees of green. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. Hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
what a wonderful world. Yes, I think to myself.